je vais essayer de parvenir sur ce qu'ont dit mes camarades, que je partage pour beaucoup, à une nuance près avec ce que vient de dire Dominique d'ailleurs. Je crois que les gens en dessous, il y a des gens qui souffrent tellement de ce que fait la gauche. Pardon, c'est pas la gauche, elle a dit, le PS. Qu'il finit par y avoir une dissolution des différences gauche-droite qui est dramatique dans ce pays, d'où effectivement l'interpellation de ce qui devrait être la vraie gauche. Pour parler, alors, il se marre parce que j'ai dit que, étant donné ma spécificité, je voulais m'occuper de la partie juive des attentats. Et oui, l'UJFP a une spécificité, l'Union juive française pour la paix, s'occupe des questions, on va dire israélo-palestiniennes, de la paix au Moyen-Orient, mais en ce qu'elles sont aussi directement liées aux questions du vivre ensemble ici, avec tous les guillemets qu'il faut sur le vivre ensemble. Je vais citer juste pour commencer, parce que j'adore ce tweet qui vient de circuler sur Onfray, qui dit... Michel Onfray, qui dit « Peu importe les tergiversations de Valls et de Hollande, il y a bien deux France aujourd'hui, dont une qui déteste les Juifs. » Elle est bonne, hein. Mais elle introduit rudement bien ce dont j'avais envie de parler. « Si nous voulons déconstruire un tant soit peu, ce qui amène un jeune Français se revendiquant d'Al-Qaïda péninsule arabique à entrer dans un supermarché cachère, c'est-à-dire juif, pour tuer quatre personnes juives parce que juives. Il nous faut forcément repartir du 11 septembre 2001, qui est le début d'une très longue séquence, mais il y a une autre séquence qui est beaucoup plus courte, qui part de juillet 2014 et de Gaza. Si on part du lendemain du 11 septembre 2001, je ne sais pas qui a cru que l'idéologie néoconservatrice ne touchait pas la France. Mais c'était une grave erreur, cette idéologie qui est venue remplacer, je le rappelle, tout le monde le sait, l'affrontement des blocs Occident contre URSS par un affrontement civilisationnel entre un Occident dit judéo-chrétien, ce qui est une notion qui n'existe pas, sauf depuis le néoconservatisme, et l'islam, trouve immédiatement en France ses émules par une série de personnalités journalistes qui font par exemple le cercle de l'oratoire. Avec dedans, excusez-moi, par exemple, l'ancien responsable de la chaîne de télévision sioniste basée en Israël et en France, I24 News, avec Pascal Bruckner, avec Tarnero, avec Luxman, avec Romain Goupil, avec Elisabeth Chemla, responsable du site Moyen-Orient...
Proche-Orient Info.
Proche-Orient Info, le site sioniste, avec Cécilia Gabizon, responsable au Figaro des pages islam. Avec Candace Perber, vous savez, celle qui dirigeait le NS et qui avait interdit le débat avec Stéphane Hessel. Les voilà, tous ces gens. Et bien au-delà, c'est aussi une mouvance néoconservatrice qui s'installe à la une des grands médias. C'est une mouvance chargée de porter l'assaut contre les musulmans dans ce pays. Finkielkraut, Taguieff, Charlie Hebdo, dirigé par Valls, qui fait entrer Caroline Fourest. Val, pardon. Philippe Val, j'ai un problème avec les terminaisons. Tous ces gens-là en font partie. Cette catégorie de gens va impulser en France la désignation des musulmans et des arabes comme une classe dangereuse, assignée à une religion incompatible avec une laïcité dévoyée, utilisée comme une arme contre eux. Mais l'instrumentalisation de la communauté arabo-musulmane n'est pas la seule. Dans ce nouveau partage du monde qui veut s'imposer, Israël est un allié évident des néoconservateurs. Le conflit israélo-palestinien est une ligne de front de cette bataille d'axe du bien contre le mal. Les juifs français seront, eux, pris en otage de cette situation, embrigadés d'office dans un soutien obligé sans partage pour la cause d'Israël. L'outil majeur de leur embrigadement est l'antisémitisme. Et c'est une arme parce que c'est la meilleure réponse à toute critique de la politique israélienne et à toute solidarité avec la Palestine. Cette instrumentalisation construite a des objectifs immédiats et des conséquences à moyen terme aussi. D'abord, elle est portée contre les Arabes qui tentent d'exprimer leur solidarité avec la Palestine. Ça, c'est la question de l'antisémitisme, bien sûr. Elle disqualifie leur parole et la requalifie immédiatement en racisme antisémite pur et simple. mais portée contre les Juifs, cette assertion d'un antisémitisme virulent et grandissant éveille leurs craintes, en fait les otages d'une politique de pression. L'antisémitisme a la vertu immense, en effet, d'effacer la Palestine du discours politique et de le remplacer, ce discours politique sur la Palestine, par un problème racial entre communautés. Les deux plus fortes d'Europe sont en France, la première communauté arabo-musulmane et la première communauté juive. La conséquence à moyen terme est donc de dépolitiser, de raciser la question palestinienne et de la faire tout simplement disparaître derrière un racisme atavique qui ne serait que arabe contre les juifs. Il faut se souvenir du travail du BNCVA, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, qui est un bureau produit par une émanation du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. C'est-à-dire c'est un bureau partial, ça n'est pas un bureau qui est un organisme gouvernemental d'observation de l'antisémitisme d'État. Et le travail aussi du Centre Simon Wiesenthal Europe, qui pendant toutes ces années, depuis 2000, ont qualifié toute réunion pour la Palestine de réunion antisémite. Il faut se souvenir, le travail de Dominique Vidal dont il a parlé sur les chiffres de la CNCDH montrait clairement que les pics d'antisémitisme en France correspondaient très exactement aux crises meurtrières contre la Palestine, l'opération Bouclier de Défense en 2002, Plomb Durci et les autres. En bref, les Juifs commencent à avoir peur puisque de fait, la parole empêchée de toute une catégorie de population se transforme souvent en agressivité contre eux. Et la réponse est claire à leurs inquiétudes. Dès 2004, Ariel Sharon les appelle à immigrer d'urgence en Israël et annonce un antisémitisme sanglant à venir. Prophétie autoréalisatrice, point d'interrogation. Cette déclaration avait cependant à l'époque énervé le gouvernement français et le CRIF qui s'en était démarqué, clairement. Et puis Sharon revient à la charge en 2005. Et puis on a les appels de Benjamin Netanyahou à Toulouse au lendemain de l'affaire Merah et à Paris au lendemain de l'affaire de la porte de Vincennes, émigrés. Déjà, les victimes juives de Toulouse et de Paris sont enterrées officiellement en Israël et j'y reviendrai. J'ai un truc à dire là-dessus. Et cette fois, lors du dernier appel, on a le silence du CRIF qui ne proteste pas. Et pourquoi ils ne protestent pas? Parce que font partie des 60 associations qui constituent le CRIF. Alors, je n'ai pas réussi à trouver la date de leur entrée, mais c'est quand même très intéressant et ça vaudrait le coup de le savoir. L'agence juive chargée de l'Alia des Juifs de France vers Israël, elle fait partie du Conseil représentatif des institutions juives de France. En son sein, ce conseil, qui est censé représenter les Juifs de France, contient une agence semi-gouvernementale israélienne qui organise l'immigration des Juifs français vers Israël. Et le KKL aussi, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, j'ai oublié la traduction en français, mais c'est l'organisme qui a organisé la semi-gouvernementale aussi, qui organise la dépossession des terres palestiniennes. Donc la boucle est bouclée, les Juifs de France sont mis en danger pour faire taire sur la Palestine et pour désigner l'axe du mal en France, qui est l'axe postcolonial. Et il y a une solution s'ils sont emmerdés. Eh bien, il y a l'immigration vers Israël. Chacun chez soi et Dieu pour tous, si j'ose dire, ce qui nous renvoie à la notion d'apartheid. Alors, pour en revenir sur ces enterrements, on a beaucoup dit, on a beaucoup parlé du Yoav Khatab, le jeune Tunisien, fils du rabbin de Tunis, qui était, qu'on a montré, rappelez-vous, avec un doigt en train de voter, sortant d'un bureau de vote tunisien, et en disant, et ça fait beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir, je veux dire, les Tunisiens étaient très fiers, qui est cette espèce de revendication de la part du père de la victime, du rabbin Khatab, de sa tunisianité, de leur tunisianité. Et puis, il y a eu une espèce de déception autour du fait que Yoav Khatab, comme les autres, a été enterré en Israël, à Jérusalem. Ce qui n'a pas circulé, c'est un article qui n'a été publié qu'en hébreu, pas traduit en anglais, et d'où ma difficulté à l'obtenir, je ne l'ai pas encore, mais je connais son contenu. Il a été publié sur le site 972. Et c'est un interview du rabbin Rattab de Tunis, à Jérusalem, où il dit qu'il y a eu des pressions exercées très fortes pour que son fils soit enterré en Israël, contre leur volonté familiale. Il est le seul à ne pas avoir pris la parole et fait de discours lors de l'enterrement à Jérusalem. Et l'entretien se conclut par une question de la personne qui l'interviewe, qui lui demande comment il se sent d'être à Jérusalem, et il répond « loin de Jérusalem ». Je trouve cette histoire absolument, du début jusqu'à la fin, et dans les instrumentalisations qu'elle recouvre, absolument, absolument difficile, enfin douloureuse, douloureuse. Est-ce que tout cela veut dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France ou que c'est un phénomène mineur ? Non. Cela veut juste expliquer les conditions du développement de cet antisémitisme, je dirais presque de sa production, par un contexte et une double instrumentalisation. Cette situation a permis... Alors, je vais sauter parce que ça a déjà été dit par mes camarades. Comment toute la population qu'on va appeler post-coloniale, qui subit de plein fouet la crise économique et sociale, qui subit le délit de faciès, dont les morts ne sont jamais honorés, qui n'est pas protégée par l'État, bien au contraire, il y a un racisme d'État qui se pratique envers cette population. En face de ça, l'instrumentalisation des Juifs, comment je vais me raccorder là, quand j'aime bien quand je saute, après il faut... pour recoller les... En face de ça, on a un affichage de surprotection de l'État, de tout ce qui se passe pour les Juifs, de manière ostensible. Ce qui est protégé, c'est la communauté juive, mais je dirais en tant que sioniste. C'est le lien qu'il faut faire, je pense. Et là où ça se voit, alors... On a par exemple les proclamations nationales de protection des juifs pendant les actions antisémites, et on ne compte plus les agressions contre les femmes voilées, contre les musulmans, les morts tués par des bavures, etc., qui ne provoquent aucun de ces éléments-là. Cet été, c'est la séquence Gaza. Nous avons assisté à un soutien officiel et annoncé de la politique israélienne par tout le gouvernement. Et... qui allait de pair, qui avait pour corollaire, si j'ose dire, l'interdiction de fait à toute la population qui avait envie de soutenir la population attaquée de Gaza, l'interdiction de manifester. C'est là que ce deux poids deux mesures, c'est une des phrases clés de la période, hein, avec quelqu'un qui a dit sur une radio France Inter qu'il fallait tordre le cou à cette expression. Je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, mais tu l'as entendu. Ce deux poids deux mesures affiché et revendiqué, c'est quelque chose qui provoque un fort ressentiment dans les populations opprimées contre les Juifs, qui représentent un corps privilégié. C'est ce qui a permis à des Dieudonnés et des Soral de surfer sur ce ressentiment, à partir d'un antisionisme de surface, c'est le cas de dire, pour en arriver à la diffusion d'un antisémitisme redoutable, offrant des quenelles en lieu et place d'élaboration politique à une jeunesse ostracisée et abandonnée. En interdisant Dieudonné, on renforce ce cercle vicieux, parce que tout le monde entend Zemmour tous les jours et ça va très bien, pas de problème. Et cela permet aussi de faire le lien avec l'antisémitisme d'extrême droite fascisante. En ce sens, les Dieudoral et les...
c'est pas mal. Ouais. Joli. On va la garder,
parce que je vais
celle-là.
Aller.
On va la garder, celle-là.
Sont les meilleurs alliés du choc des civilisations, tout comme Daesh. Ils disent la même chose. Et tout comme Netanyahou, qui ne rêve que de transformer la guerre coloniale qu'il conduit contre les Palestiniens en guerre de religion internationale. Alors comment on en sort, et j'en terminerai par là, évidemment en nageant à contre-courant, d'abord en prenant conscience de cette articulation islamophobie-soutien d'Israël, et d'une autre, islamophobie, antisémitisme, comme les deux revers d'une même médaille. Celle d'un racisme qui masque les rapports de domination, efface la causalité des conflits, notamment en Palestine, et essentialise tous les rapports sociaux. Du coup, il est possible de travailler à construire un front transversal, en assumant la complexité du moment. Et il est complexe. Associer les populations instrumentalisées dans une même lutte contre le racisme et les instrumentalisations qu'elles subissent est une nécessité profonde à laquelle l'UGFP travaille activement, je dois dire, et systématiquement. Lutter contre l'islamophobie d'État et contre un philosémitisme sioniste d'État en exigeant l'égalité pour tous. Le philosémitisme de l'État agit comme un racisme, puisqu'il essentialise une population en tant que victime absolue, passé, présente et à venir. Il la jette en pâture à ceux qui l'oppriment. Des juifs servent de bélier dans le choc des civilisations, ils serviront de bouc émissaire. Il nous faut un front anti-islamophobie et contre les lois sécuritaires du moment. Ce front est en train de se constituer. Et nous sommes en train d'organiser un meeting qui devrait avoir lieu le 6 mars à Saint-Denis, qui va se donner dans un premier temps, qui veut répondre dans un premier temps à la nécessité de faire émerger les paroles des gens qui sont victimes du contre-coup de ces attentats, c'est-à-dire les musulmans. Et puis aussi, il faut porter la cause palestinienne ensemble. Et là, comme je dis ensemble, c'est y compris en faisant référence à ce qu'a dit Nassira tout à l'heure. Nous avons vu cet été comment il a été difficile d'éviter les séparations entre ceux qui voulaient se protéger, d'une certaine manière. Nassira dirait ça de manière plus rude que moi. Moi, je vais le dire très gentiment, là, pour une fois. Et qui, en se protégeant, contribuait à l'exclusion des masses de gens qui voulaient manifester et à qui c'était interdit. Il a fallu ramer très dur cet été pour éviter une scission qui aurait été catastrophique pour la Palestine, pour Gaza et pour nous tous ici. Je crois qu'effectivement, ce qui ressemble, notre société française est en train de ressembler de plus en plus à la société israélienne, y compris par le fait que quand on est un Israélien juif, par exemple, on détient des privilèges par sa naissance et que militer pour un peu de justice et un peu d'égalité dans cette région du monde, ça veut dire être capable de renoncer dans sa tête et dans ses actes tous les jours, tous les matins, si j'ose dire, à ses privilèges. Et je crois qu'en France, on va être très très nombreux à devoir faire la même chose si on veut construire autre chose que ce que nous dessine le choc des civilisations. Voilà. Et ici, le dernier point, porter ensemble la cause palestinienne comme une cause politique et décoloniale et lutter pour la protection d'un outil dont on a très besoin, qui est international aujourd'hui et qui est attaqué internationalement, mais en France très particulièrement, c'est la campagne de boycott des investissements et sanctions contre Israël. Tout concourt à faire de cette campagne demain matin, si ce n'est pas hier matin, un endroit dangereux, antisémite et compagnie. Il faut imposer la légitimité de cet outil. Je vous remercie.